France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et enquête de politique ce soir est enquête de gauche. Cette semaine, enquête de gauche, donc la gauche a-t-elle un avenir ? Tout simplement, nous en sommes là. Ces dernières années, l'idée qui domine était qu'après les combats pour la liberté, la justice sociale, l'émancipation sous la matrice égalité, le grand et nouveau combat de la gauche, celui qui la régénérerait, serait l'environnement, à la faveur de l'impérieuse nécessité du changement de mode de vie qu'impose le bouleversement climatique. La gauche allait proposer une nouvelle vision enviable et soutenable de la société et du monde de demain. Après la chute du communisme pour cause de grands ratages ou l'épuisement peut-être pour cause de réussite de la social-démocratie, il fallait, disait-on il y a encore pas si longtemps, allier le souhaitable au possible, y inclure une bonne dose d'utopie, réinventer l'humanisme et sauver la planète. Les gauches, révolutionnaires ou démocratiques, appelaient ça l'éco-socialisme. Le but semblait clair et pourtant, rien de convaincant ne s'est concrétisé dans ce sens. Et les classes populaires semblent désormais en quête d'autorité, voire d'autoritarisme, et ce, détournerait de la gauche. On a l'impression que l'énergie novatrice de la gauche se trouve maintenant dans des initiatives locales, bifurqueuses, dans l'attente du grand basculement de la nature à l'heure de l'effondrement de la biodiversité, ou dans la recherche universitaire sur le genre à l'heure de la révolution anthropologique à propos des relations hommes-femmes. L'énergie créatrice de la gauche ne se trouve plus dans les organisations qui cherchent à conquérir le pouvoir institutionnel. La gauche ne serait-elle devenue qu'une activité universitaire, un domaine de recherche ou une activité associative, une méthode de développement personnel? Le divorce entre la gauche et le peuple, entre la gauche et le pouvoir, est-il vraiment consommé? La gauche est pour l'instant submergée sous la puissante vague populiste et réactionnaire. On vient encore de l'entendre dans le journal de 18h. Se reconstruira-t-elle en réaction aux effets de cette vague? Sera-t-elle capable de proposer une alternative à l'autoritarisme qui vient et qui est déjà là? Je ne suis pas sûr que nous parvenions à répondre à cette question avant 19h, mais nous allons au moins essayer de proposer quelques clés et faire un diagnostic. Et pour cela, nous sommes bien entourés avec trois invités ce soir. Trois invités que je vous présente. Michel Wiewerka, sociologue, directeur d'études à l'EHESS, auteur. Ça sort cette semaine, c'est déjà d'ailleurs en librairie, de « L'idée de gauche peut-elle encore faire sens ?» Voilà, un titre bien dépressif, mais bon, vous allez nous dire si vous êtes un petit peu optimiste quand même. Et c'est édité à la maison d'édition de l'Aube. Marion Fontaine, historienne, professeure à Sciences Po. Vous avez coécrit avec François Jarige et Nicolas Patin « Le travail en Europe occidentale entre 1830 et 1939 aux éditions Atlande. Et Adrien Broche, politiste, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur. Ça sort en janvier, ça sort très bientôt.
C'est sorti en janvier,
le 24 janvier, je crois, oui. Portrait moderne de la gauche française, aussi aux éditions de l'Aube. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
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 Il n'y a plus qu'une seule chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation.
Discours de Jean Jaurès en juillet 1914, avec la voix du comédien Bernard Fresson.
C'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, français, anglais, allemand, italien, russe, que nous demandions à ces millions d'hommes de s'unir.
Le 6 février, nous avons ranimé la flamme républicaine dans une chambre déjà battue par les meutes.
Léon Blum, le 1er mai 1936, à propos des journées de février 1934.
Quelques jours se passent, et c'est notre initiative, jointe à celle de la CGT, qui a permis la grande journée réparatrice du 12 février 1934.
Qu'est-ce qui donne du sens?
Le sociologue Alain Touraine, en 2022.
Il y a 100 ans, c'était quelque chose comme ce qu'on aurait appelé le mouvement ouvrier. C'est autour du problème du travail que nous avons construit notre représentation. Et nous avions tous cette idée que c'est en passant par le langage du travail et des mouvements sociaux qu'on trouvait le sens, les solutions à chercher. Et aujourd'hui, je me pose la question, nous ne sommes plus dans un monde dominé par les problèmes du travail. C'est pas là-dessus que se joue l'avenir du monde.
Voilà, c'est pas là-dessus que se joue l'avenir du monde et on va se demander sur quoi la gauche peut se reconstruire. Et est-ce qu'on peut dire, Michel Vivorca, pour remettre en perspective l'histoire de la gauche, qu'elle a toujours réagi finalement ? Elle est née et elle s'est transformée en réagissant. La révolution de 1789, c'est la réaction à un ordre social devenu invivable. L'affaire Dreyfus, la montée du fascisme en février 1934, on vient d'entendre Léon Blum, la résistance, mai 68, l'écologie, ce sont des réactions.
J'aime pas beaucoup ça. Ah. J'aime pas beaucoup ça parce que c'est de l'action. On vient d'entendre Alain Touraine qui a dû développer une sociologie de l'action, pas de la réaction. Et je crois que l'important dans cette idée de gauche, c'est justement qu'elle s'oppose, elle conteste et elle construit. Et c'était très intéressant.
Elle commence par s'opposer et contester. Donc
Oui, mais elle ne réagit pas. Elle est dans une situation. Évidemment, si tout va bien, pourquoi se mobiliser ? Mais on ne peut pas dire qu'elle soit du côté de la réaction.
Et en plus, non, au sens réactionnaire.
Oui, mais les deux, on ne peut pas les dissocier. Et j'étais très content que vous commenciez cette émission avec Jean Jaurès. Parce que Jean Jaurès, c'est vraiment trois choses extrêmement importantes. Jean Jaurès a d'abord été républicain. Et la gauche, elle s'est construite avec l'idée de république. Toute la construction de l'idée de gauche, vous auriez pu faire parler Maurice Agulon, si je peux dire, la république au village, vous voyez. La gauche se construit d'abord pour tout le monde, si je peux dire. Elle est républicaine.
Pas pour tout le monde, à l'époque de Jean Jaurès.
Attendez, j'y arrive. Oui. Jaurès dit « je suis républicain ». Ensuite, il découvre, si je peux dire, la classe ouvrière, Carmaux, enfin c'est toute une histoire très passionnante d'ailleurs. Et là, la gauche devient l'incarnation ou la figure d'une catégorie particulière de la population, le prolétariat ouvrier. Et donc là, elle n'incarne pas seulement tout le monde, la République, elle incarne une figure sociale singulière. Le mouvement ouvrier, la classe ouvrière. Et ça, Jaurès l'incarne aussi parfaitement. Et enfin, et là on rentre dans le Jaurès un peu plus compliqué. La gauche, elle est internationale, donc elle n'est pas nationaliste. Mais on le dit moins, les spécialistes le savent bien évidemment. Mais juste avant d'être assassiné, au moment où la guerre allait commencer, Jaurès sait que la guerre va commencer, et deux ou trois jours avant, il publie un texte dans lequel il dit en gros, j'ai pas les mots exacts, il dit en gros, évidemment je suis internationaliste, comme toute la gauche, mais si maintenant la guerre est inévitable et commence, alors je serai patriote.
Oui, on a gardé l'idée de Jaurès, le pacifiste.
Et donc Jaurès sait... Il n'est pas belliqueux, si je peux dire. Non. Mais il sait ce qu'est l'idée de nation, c'est ça que je veux dire, aussi.
Oui.
De patrie, en tout cas. Et donc je trouve que Jaurès est une figure merveilleuse pour ouvrir la discussion que nous avons ce soir.
Marion Fontaine, comment vous réagissez aussi à cette idée ? Alors, je retire le mot réaction, parce qu'évidemment, ça fait penser à réactionnaire, mais c'est au moins une pulsion contre l'autoritarisme, pour les libertés, pour la justice, pour l'égalité, qu'est-ce que j'aurais comme mot à la place de réaction ? Qui se dresserait contre un état de fait ?
Alors, là, moi aussi, je vais pas être tout à fait d'accord avec le terme de pulsion, désolé.
Parce que,
alors certes, la gauche, si on la cale dans ce qui est son siècle de naissance, c'est-à-dire le 19e siècle, on peut dire que l'un de ses ancrages, c'est le cri de révolte, de souffrance, vous appelez ça comme vous voulez, des masses ouvrières, justement, face au choc incommensurable de l'industrialisation, les enfants qui travaillent à 5 ans, les inégalités sociales qui explosent, etc., etc. En même temps, la gauche, c'est, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle à l'époque socialisme dans un sens extrêmement large, c'est la capacité à dépasser cette pulsion et de Saint-Simon à Marx en passant par Proudhon à penser et à faire proposer un projet qui soit non pas un projet de retour en arrière. La gauche prend acte du fait que, et la révolution industrielle ou l'industrialisation, et la révolution démocratique, qui a commencé avec la révolution française et la révolution états-unienne, sont deux changements majeurs et irréversibles. La question, c'est face aux injustices, au désordre, au sentiment d'anomie que crée ce double mouvement, comment reconstruire, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Michel Vivorca, l'enjeu c'est comment reconstruire. Les socialistes ne cherchent pas, et les socialistes, qu'ils soient les plus radicaux et révolutionnaires ou les plus réformistes, ça c'est, il n'y a pas de différence, ne cherchent pas à juste protester ou exprimer une souffrance. Ils cherchent à réorganiser le monde. Quand ils disent à la fin du 19e siècle, Jaurès parmi d'autres, etc., qu'il faut mettre fin au capitalisme, donc mettre fin à la propriété privée, c'est pas dire ensuite chacun fait ce qu'il veut, et c'est dire on construira un système qui permettra, je le cite, une organisation productive, plus juste, etc. De la même manière, si Jaurès, et je reprends aussi cet exemple de nation internationalisme, Jaurès est ancré familialement, culturellement, etc., dans l'histoire de la République française à laquelle il est profondément attaché. En même temps, Jaurès est bien conscient que l'anarchie des relations entre les nations, c'est aussi comme ça qu'est l'appel du début du 19e siècle, anarchie coloniale, dira-t-il, où chacun essaie de prendre des bouts du Maroc, anarchie des relations entre France et Allemagne, par exemple, est insupportable.
Donc, ça, lui, ça résonne vraiment.
Ça résonne vraiment. Lui, s'il est internationaliste, c'est pas pour dire qu'il faut abolir les nations. C'est pour dire que sur la base d'une nouvelle forme de relation entre les nations, il sera possible, encore une fois, de construire un système plus juste, plus durable, plus cohérent. Et pour rebondir sur ce que vous disiez au début dans votre éditorial, moi je ne pense pas du tout que ni pour le social ni pour l'international, tout cela soit dépassé. Que la gauche, les gauches soient pour l'instant incapables de répondre pleinement à ces défis, je pense qu'on en est malheureusement tous conscients. Mais
que
les défis demeurent.
Oui.
Il me semble que c'est incontestable. Et qu'on affronte, si on prend simplement la question du travail, on va probablement affronter, entre la crise écologique, le numérique, etc., une crise du travail qui, me semble-t-il, va être au moins aussi importante que certains aspects de l'industrialisation au 19e. Donc,
et va peut-être permettre à la gauche de tenter de réinventer ou d'inventer une société du travail, puisque le travail et le social sont au cœur de la gauche. On en reste un petit peu encore au 19e siècle et au début, à la création de la gauche. On va venir assez rapidement tout à l'heure à l'actualité brûlante de la gauche. Adrien Broche, vous êtes aussi intéressé beaucoup à la République, au rapport de la gauche à la République aujourd'hui. Michel Vivorca nous rappelait que la gauche et la République, selon Jaurès, c'était indissociable. Quel est le problème aujourd'hui avec la République et la gauche?
Oui, je crois qu'on a déjà touché un peu du doigt les deux grands problèmes, c'est-à-dire que la synthèse jaurésienne entre l'idée socialiste et l'idée républicaine est aujourd'hui travaillée sur ces deux jambes, à la fois effectivement la jambe socialiste, je rebondis sur ce que disait Alain Touraine dans le petit audio qu'on a entendu, mais sortie de l'âge industriel, disparition de l'acteur historique de l'idée socialiste et de la gauche, ou en tout cas altération de la gauche, du lien que la gauche entretenait avec son acteur historique qui était la classe ouvrière, un agenda des thématiques aussi dans le débat public qui laisse une large place aux enjeux qui ne sont pas forcément des enjeux qui ressortent du périmètre d'intervention traditionnelle de la gauche, en gros la question sociale, les enjeux matérialistes. Donc tout ça, j'allais dire, fragilise d'abord le premier pilier qui est l'idée socialiste et sa vivacité aujourd'hui. Le deuxième, effectivement, c'est l'idée républicaine qui est en crise, je crois, aujourd'hui, alors même qu'elle est partout, c'est-à-dire que plus personne ne se dit pas républicain. On a des définitions plus ou moins extensives de l'arc républicain, du front républicain, qui n'est pas tout à fait aligné avec l'arc républicain, et qui est devenu aujourd'hui quasiment une idée parfois polémique. On l'a vu notamment à gauche dans la période très contemporaine, en gros depuis à peu près 2015, où les choses se sont considérablement envenimées, notamment à partir de la question des attentats et de la pénétration de cette question un petit peu républicaine, au sens où certains l'appellent républicaniste, c'est-à-dire un peu détaché de la question sociale, à gauche, qui s'est matérialisée sur la question de la laïcité. Et donc, ces deux enjeux, à la fois l'idée socialiste et l'idée républicaine, aujourd'hui, avec cette espèce de réduction de la question républicaine à la seule question de la laïcité, parfois elle-même réduite à la question des signes religieux, où on isole un petit peu la question de la laïcité du projet global, ça fragilise effectivement un petit peu ces deux piliers fondateurs depuis en gros le socialisme républicain de Jaurès.
Le socialisme républicain, Michel Vivorca, c'est aussi l'universalisme et la laïcité. Alors, avant la loi, la grande loi de 1905, il y a l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est un moment créateur aussi de la gauche sociétale, on pourrait dire aujourd'hui. On n'utilisait évidemment pas ce mot à l'époque. Qu'est-ce qui se passe autour de cette notion d'universalisme aujourd'hui? Pourquoi l'universalisme pose un problème à la gauche?
D'abord, l'universalisme est contesté de façon parfois tout à fait pertinente par des gens qui disent c'est le discours des blancs par rapport aux gens d'autres couleurs, je le dis un peu vite, c'est le discours des hommes, c'est le discours des colonisateurs, c'est le discours des dominants, c'est le discours de l'Occident. Et donc, l'idée que l'universalisme, c'est un discours de dominant, c'est une idée très forte. Et il faut le dire, si la France a été républicaine, en particulier pendant la Troisième République, elle a aussi, cette Troisième République, été colonisatrice, et elle a été colonisatrice au nom d'une certaine conception de l'universel. Elle disait, on va apporter le progrès à tous ces peuples qui en sont encore loin.
Et en même temps, les décolonisateurs, ceux qui étaient contre la colonisation, comme en 1885, la célèbre controverse entre Clémenceau et Ferry, Clémenceau était contre la colonisation, ils se basaient sur l'universalisme aussi et sur les valeurs de la République.
Oui, alors dans cette controverse, si on regarde les textes, c'est pas très positif pour Ferry, parce qu'il a des propos racistes.
Hein,
il a des propos racistes. Je voudrais soutenir ce qu'a dit Adrien Brochet, parce que c'est très important. La République, c'est très paradoxal. La République, elle est en crise. Et pas seulement à cause de la laïcité. C'est le plus visible. Si vous regardez les grandes entreprises publiques des années 50-60, il reste EDF et la RATP, je simplifie. Mais enfin, en gros, c'est fini. Si vous regardez, puisqu'on parle en ce moment de choses militaires, il y avait la conscription. Chirac a dit un beau jour, c'est fini, on n'en a plus besoin. Et on pourrait trouver d'autres domaines de la vie collective, mais c'est vrai que le grand problème, c'est l'éducation. Mais pas seulement à cause de la laïcité. Je viens de lire un livre de Dubé et Najat Vallaud-Belkacem, de François Dubène. Bon, il ne parle pas du tout de l'islam et de la laïcité. Il dit le problème, il est social. L'école fabrique des injustices sociales. Bon.
Oui.
Et donc, le modèle républicain
entre
en crise, et à ce moment-là, j'espère que j'ai très sensible à ce que vous disiez, Adrien, à ce moment-là, tout le monde devient républicain. Il n'y a pas plus républicaine que Marine Le Pen.
Oui.
C'est quand même hallucinant. Alors, vive la laïcité, vive l'égalité
des
hommes et des femmes,
elle est même laïque, c'est une laïcité un peu identitaire.
Alors, évidemment, on peut imaginer ce qu'il y a derrière ça. Et donc, la gauche, elle se retrouve orpheline, parce qu'elle a construit la République, c'est quand même la gauche qui l'a construite, contre ce qu'on peut appeler rétrospectivement, et de façon un peu anachronique, la droite. Donc, elle construit la République, maintenant tout le monde l'est, républicain, donc elle a, bon, le mouvement ouvrier qui portait très haut, et j'étais tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est Marion, voilà, parce que c'est très important. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire.
Vous parliez de la gauche et de la République et du...
Non, c'était ce que vous aviez dit. Sur l'idée que, et vous l'avez dit aussi, sur l'idée qu'il y a des projets, des visions, qu'on n'est pas simplement dans la cuisine quotidienne. Bon, eh bien, le mouvement ouvrier incarnait ça au plus haut niveau. En s'émancipant, on peut être marxiste un quart de seconde, le prolétariat ouvrier devait émanciper l'humanité tout entière. C'est fini. Quand on nous parle des demandes syndicales, elles sont très respectables, mais elles ne sont plus à ce niveau de projet. Et donc, c'est vrai que la gauche, elle est orpheline du mouvement ouvrier, elle est orpheline de la République, et sur la nation, la patrie, elle n'est quand même pas tout à fait à son aise.
Non,
il faudra parler peut-être de l'Europe, mais...
Bien sûr. Marion Fontaine, vous avez beaucoup travaillé sur le travail, le social, et on a l'impression aujourd'hui, enfin en tout cas les classes populaires, ne semblent plus en revendication dans ce domaine-là. En tout cas, on n'entend pas leur voix, ils le sont certainement, on n'entend pas leur voix, et les classes populaires sont réputées être la base de l'autoritarisme qui monte.
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais abonder dans le sens d'Adrien et de Michel Viverka, c'est-à-dire cette idée d'une république à la fois omniprésente et vide. J'ajouterais juste un élément. Moi, je suis frappée du fait que cette omniprésence du vocabulaire républicain, qui a en gros commencé à monter dans les années 80 et n'a cessé de monter depuis, s'est aussi appuyée sur l'affaissement des anciennes idéologies de gauche. Après tout, il me semble que dans les années 50, 60, 70, il y avait plein de gauches, avec plein de débats, qu'elles ne parlaient pas nécessairement de République, et qu'entre nous soit dit, ça ne leur posait pas nécessairement de problème.
Il y avait des gauches qui n'étaient pas très républicaines, enfin, tout ça qui se disait.
C'est même pas que, pour elles, la République était le cadre de la démocratie française, qui ne nécessitait pas nécessairement qu'on y revienne matin et soir. Si vous regardez les débats du PS des années 70, le PS des années 70 prend la République comme un acte, un cadre de fait, quelque chose qui est là, mais qui ne nécessite pas nécessairement qu'on en disserte matin, midi,
alors
soir.
Alors qu'aujourd'hui, c'est sur ce thème-là, sur ce thème de la République, que l'on dit que la gauche serait irréconciliable.
Mais je pense que c'est aussi un signe profond de l'appauvrissement idéologique de la gauche. Si la gauche en est réduite à se disputer sur burkini, pas burkini, etc., c'est quand même, je suis désolée, qu'il y a un problème ailleurs. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de penser des problématiques un tout petit peu plus larges et un tout petit peu plus générales. Pour répondre à votre question sur le travail... Oui, alors effectivement, la gauche, on pourrait faire remonter ça au 21 avril 2002, mais en réalité, ça remonte un peu avant. On a l'impression aussi d'une gauche qui ne se remet pas du fait d'un sentiment de divorce avec les couches populaires. Avec un mélange à la fois d'envie de reconquérir ces classes populaires, de mépris social, de misérabilisme aussi qui s'exprime. Hein, toutes les gauches d'ailleurs peuvent avoir un moment considérer que toute une partie de leur ancien électorat, ce sont des sauvages, des barbares, des autoritaires, des machistes, etc. etc. Donc je pense que le problème il est là. Alors, le problème effectivement, il est effectivement des deux côtés. Hein. Il faut s'interroger.
S'il faut pour récupérer l'électorat populaire redevenir masculiniste.
Ah non, j'ai pas du tout dit ça.
Peut-être.
Non, je pense au contraire qu'il y a que les classes populaires au fond de ce pays sont pas à mon avis différentes du reste des catégories de ce pays. Donc sont traversées par des courants autoritaires comme par des courants émancipateurs, par des courants de liberté comme par une volonté de lutte contre les discriminations comme par des tendances plus libérales, etc. Et que au fond, comme disait Jaurès, il faut savoir comment pousser, retenir et exprimer, représenter dans ces classes populaires ce qui va dans le sens de l'émancipation. Après tout, pour prendre un exemple, lorsqu'il y a des rixes entre ouvriers belges et ouvriers français en 1897 dans les mines du Nord, il y a deux positions socialistes possibles. Il y a l'une des positions socialistes qui consiste à dire « Bah oui, vous avez raison, etc. Bon, virez quelques ouvriers belges et après tout, effectivement, il faut protéger le travail national. » Et il y a la position qui est déjà celle de Jaurès, qui est de dire « Vous avez raison de dire qu'il y a des inégalités salariales et c'est insupportable, mais la solution, c'est d'égaliser les conditions, pas de chasser les immigrés. »
France Inter, enquête de politique. Le Grand.
Et nous sommes toujours avec Adrien Broche, Marion Fontaine et Michel Viverka et on essaye de parler de l'avenir de la gauche. Pour l'instant, on en était plutôt au diagnostic et aux raisons pour lesquelles ça ne va pas très bien. Adrien Broche, il y a quelques thèmes qui paraissent repoussoirs pour une grande partie de la gauche, pour une partie de la classe populaire. On parle beaucoup du wokisme. Alors, le wokisme, c'est très compliqué à définir, c'est très utilisé, c'est un terme que j'utilise avec des guillemets, de grosses guillemets, mais c'est cette accusation. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? On se souvient de cette note de Terra Nova qui, en 2012, avait dit que la gauche devait plus s'intéresser aux minorités qu'à la question sociale. Est-ce que une des crises de la gauche, c'est cette incompréhension?
Oui, alors bon, sur ce qu'on appelle le wokisme, je pense qu'il y a plein d'éléments très contradictoires qu'on met sous cette catégorie, évidemment, donc je ne m'aventurerai pas sur
une définition. C'est plutôt une panique conservatrice ?
Oui, je pense que c'est peut-être une panique conservatrice. Je pense qu'à l'intérieur de
plus
ce qu'on appelle
folie progressiste.
Le wokisme, il y a plein de choses très différentes et très contradictoires, puisqu'on y met beaucoup de dérives qui sont plus ou moins parfois des dérives hyper progressistes et parfois très réactionnaires en réalité.
Je renvoie les auditeurs à notre épisode Enquête de politique sur le wokisme qui essaye d'expliquer ce que c'est, de cerner la notion.
Non, mais sur ce que vous disiez effectivement, sur cette fameuse note Terra Nova dont tout le monde parle maintenant depuis une quinzaine d'années et qui en fait doit d'ailleurs davantage sa postérité aux critiques qui lui ont été adressées qu'elle proposait en réalité, puisque en gros, pour rappel pour nos auditeurs, le rapport Terra Nova disait actait de la fin de la coalition ouvrière et proposait au candidat socialiste qui allait être François Hollande miser plutôt sur une stratégie électorale de coalition d'un certain nombre de segments sociologiques de la société française qui avaient pour point commun un certain rapport au libéralisme culturel. Donc il y avait dedans les minorités ethniques et confessionnelles, les femmes, etc. Avec tout ce que ça recouvre de complexité. Mais part de cette fameuse note, un certain nombre de débats qui traversent les gauches depuis. On n'est toujours pas réellement sorti de cette querelle-là. Comment retrouver les liens avec les classes populaires qui elles-mêmes sont parfois mal définies. Certains y voient la France périphérique, la France des tours, la France des bourgs. Et on a très régulièrement dans le débat public et intellectuel à gauche des débats là-dessus. On a deux grandes familles de réponses à cette note Terra Nova. Deux critiques qui lui sont adressées. Une première critique que j'appelle moi plutôt socialiste, c'est-à-dire qui consiste à dire, face à la proposition Terra Nova, il faut réinverser le rapport de force et réinvestir la question sociale contre ce qui est appelé le sociétal. Donc, en gros, plutôt parler des conditions de travail, des conditions de vie matérielle des individus et voilà. Évidemment des masses
plutôt
laborieuses.
Plutôt la retraite à 60 ans, 62 ans que la GPA.
Ou le mariage pour tous. Ça, c'est une première réponse un petit peu schématisée, mais une première famille de réponses qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui chez quelqu'un comme François Ruffin. Une deuxième famille de critiques qui s'est un petit peu cristallisée autour de Manuel Valls dans les années 2010, c'est plutôt une critique républicaine ou républicaniste qui consiste à dire pour retrouver les classes populaires, il faut mettre le paquet sur ce qu'on a en commun, sur la République, sous parfois la forme un peu d'un catéchisme républicain, parce qu'on se plaît parfois beaucoup de mots, davantage qu'effectivement de parler de République au sens de ce qui fait la République quotidiennement, la question de l'éducation, de la justice, etc. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire de récits, hein, évidemment, mais voilà, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de l'assécher totalement de ces réalisations concrètes du quotidien. Donc ces deux grandes familles de critiques continuent un petit peu de s'écharper aujourd'hui, et il serait bon qu'on en sorte, peut-être par plus de dialogue, par cesser d'opposer, parce qu'il y a beaucoup de choses de communes là-dedans, et simplement pour finir sur ce que disait Marion Fontaine sur cette opposition entre des ouvriers belges et français, en soi disant on va virer quelques ouvriers belges en mettant le paquet sur la question de la nationalité, vous n'avez pas la même nationalité, donc on va mettre cela en avant, ou alors justement en mettant en avant ce que vous avez de commun, c'est-à-dire une condition sociale, et en l'occurrence la condition ouvrière. Et c'est peut-être vers ça qu'il faut aller, cette espèce de lien. On en revient à Jaurès, entre une forme d'universalisme, parce que c'est aussi ça l'universalisme. Qu'est-ce qu'on a en commun ?
Là on n'est plus avec les Belges, on est avec une question de l'immigration et avec ce sentiment, là encore je mets de grosses guillemets, ce sentiment de submersion, c'est autrement plus compliqué.
Bien sûr, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments, de conditions communes, je crois, qui lient malgré tout quelqu'un qui vient de la France dite périphérique, quelqu'un qui vient de la France rurale, parce qu'il partage un certain nombre de conditions, et c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant.
Alors on se retrouve juste après le groupe Darkside, pour continuer à évoquer l'avenir bien incertain de la gauche en but à la formidable offensive populiste autoritaire dans le monde et en France.
Smiles, and when they ask you how, you say, There's nothing on my mind.
Side, ça c'est le nom du groupe, et SNC, ça c'est le nom de la chanson, c'est ce que m'a dit en tout cas Thierry Dupin, le programmateur musical, et nous sommes sur France Inter.
France Inter, en quête de politique, Thomas Legrand.
Alors, ce matin, dans la tribune dimanche, Jean-Luc Mélenchon a déclaré ceci, les socialistes ne sont plus nos alliés. Voilà, c'en est fini de la NUPES et puis du nouveau Front populaire. Je vais vous interroger là-dessus, mais je voudrais d'abord comprendre, Michel Vivorca, est-ce que, selon vous, ce qui fait éclater, ce qui devrait faire éclater l'union de la gauche, est-ce que c'est une dissension sur est-ce le bon moment de censurer le gouvernement de François Bayrou, est-ce qu'il faut plutôt la retraite à 60, 62 ans, ou est-ce que ce ne sont pas plutôt les réactions au formidable mouvement autoritaire qui est en train de submerger le monde? On a vu par exemple, après cette semaine incroyable où Donald Trump a téléphoné à Vladimir Poutine pour finalement tout céder, on a vu Jean-Luc Mélenchon dire « Bon ben voilà, Donald Trump fait le boulot qu'on aurait dû faire. » Il n'est pas évidemment pro-Trump, hein, Jean-Luc Mélenchon, mais fait le boulot qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire que pour Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon, quand Trump cède tout à Poutine, c'était le boulot qu'il y avait à faire. Évidemment, là, on est à des allées-lumières de ce que pensent les socialistes ou les écologistes. Est-ce que ça, c'est pas beaucoup plus primordial que les petites questions intérieures?
Je vais vous le dire en d'autres termes, mais c'est exactement ce que je pense. Je pense que ce qu'incarne Jean-Luc Mélenchon, c'est fait partie de ce mouvement populiste, autoritaire, si préoccupant. Voilà ce que je pense. C'est-à-dire qu'il fait partie du problème et il apporte une solution plutôt qu'une autre. C'est ça que je pense. Et si ce que je dis est juste, alors oui, tous ceux qui sont à gauche, mais pas de ce côté-là, d'un certain populisme plus ou moins autoritaire. Après tout, il a une vision de la vie internationale, Mélenchon. Il s'est beaucoup passionné pour le Venezuela, par exemple. Bon, et pour un régime, alors, typiquement, populiste autoritaire. Et donc, je pense, moi, qu'il est grand temps, non pas que la gauche explose ou se dissocie, c'est pas ça l'idée importante, mais il est grand temps que ceux qui incarnent autre chose que ce populisme autoritaire à gauche s'affirme. Et je pense qu'on est dans un bon moment historique. Je voudrais pas être trop optimiste, mais ça frémit quand même un petit peu. Il y a d'abord eu les élections européennes. Après tout, Raphaël Glucksmann a fait, je crois, 14% à peu près de voix, là où la France insoumise était à, je crois, 8 ou en tout cas moins de 10%.
Ouais, le total, donc, ça fait 22. Hein.
Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le rapport entre les deux tendances. Et je pense que la façon dont aujourd'hui, au Parlement, les choses sont en train de se dénouer, en quelque sorte, et pour moi, un autre signe de frémissement. Vous aviez l'air tout à l'heure de dire que toutes les nouvelles de la journée étaient catastrophiques.
Non, on écoutait 18h ensemble, on était tous les quatre en studio.
Mais il y en avait une qui était peut-être un petit peu moins catastrophique que d'autres.
La médaille française au ski.
On nous annonce que les socialistes vont tenir un congrès en juin prochain.
Oui.
Bah, peut-être que ça va être l'occasion pour eux de renouer avec le sens, de renouer avec des choses un peu en profondeur et non pas la petite vie quotidienne du Parlement. Et donc, justement, de mieux s'affirmer. Et puis ensuite, comme en 80, enfin tout au long des années 70 avec Mitterrand et les communistes, comme en 36 avec Blum qu'on a entendu tout à l'heure et Thorez, bah, on verra peut-être se mettre en place des solutions où la radicalité des uns et le réformisme des autres, je le dis comme ça, pourront à nouveau se marcher ensemble au profit du réformisme.
Marion Fontaine, finalement, on va faire un petit peu d'histoire parce qu'on revient toujours dans cette émission à l'histoire pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Finalement, quand on se souvient de Georges Marchais et de François Mitterrand et des socialistes de l'époque, au moment où ils ont gagné en 1981, il y avait une différence énorme sur la politique étrangère, essentielle, existentielle, comme on dit aujourd'hui. Georges Marchais était dans la main de l'URSS et les socialistes démocratiques, comme on disait, était plutôt même presque plus atlantiste que la droite française.
Oui,
donc finalement.
Et on pourrait remonter par ailleurs même au Front Populaire, c'est-à-dire que la coalition du Front Populaire, celle qui emporte la victoire en 1936, est constituée par trois partis de gauche sans doute, mais qui n'ont pas vraiment énormément de choses en commun et qui ont passé d'ailleurs les dix.
Ils avaient l'antifascisme en commun quand même. Ça pouvait
oui,
sonder.
Mais elles ne sont pas d'accord sur une question comme oui. celle de la propriété privée ou de la propriété oui. collective. Mmh. Sur l'Union soviétique, ça fait beaucoup quand même. Mais non, mais en revanche, ce qui différencie aussi bien les relations Marchais-Mitterrand que les relations Blum-Thorez, c'est d'abord, enfin, il faut le rappeler, Michel Vivor qui a rappelé les socles, c'est qu'ils peuvent reposer sur un socle électoral qui est quand même bien plus important. Il y a un moment où il faut quand même rappeler oui. que la gauche toute mouillée, que ce soit, etc., n'a jamais été aussi bas. Donc, on est quand même dans des querelles de nains. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est-à-dire, enfin, 14%, 10% ou à peu près aux élections européennes, ça fait quand même guère que 24%. Donc, je pense que l'un des enjeux aussi, c'est que ces querelles se font sur fond d'une désaffection, sinon croissante, au moins persistante, de l'électorat. Donc je pense qu'il y a interrogé aussi, c'est pas la même chose d'avoir de grands débats idéologiques quand vous pouvez mobiliser des masses, etc., mobiliser des militants, des adhérents, etc., et avoir de grands débats idéologiques quand vous êtes à peu près 5 dans la même pièce à les avoir. Après, effectivement, comme Michel Vivorca, je pense que ces questions internationales, et il n'y a pas qu'elles, le rapport à l'État, au gouvernement, etc., sont des questions sur lesquelles toute une partie des gauches ne sont pas d'accord, que cela entraîne effectivement, et on le voit bien dans la situation internationale actuelle, des débats fondamentaux, des débats qui, sont pas, qui vont au-delà même du cas de l'Ukraine ou d'autres. Oui, la question, c'est celui de l'internationalisme de gauche et du fait que, bah, je ne sais pas, pour moi bêtement, la gauche est en faveur des nations opprimées et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça commence oui. comme ça.
Mais une fois qu'on a dit ça, c'est voilà. Une fois qu'on a dit ça, on ne règle pas la question.
On ne règle pas la question. Mais effectivement, si toute une partie de la gauche considère qu'il y a des causes nationales plus légitimes que d'autres, je pense qu'il y a à s'interroger. Après, encore une fois, le problème de la reconstruction, de la reconstitution, effectivement, pourquoi pas refaire les assises du socialisme en 1974, refaire un grand parti socialo-écolo-communiste, oui. Pourquoi pas. La question, c'est s'il fait 10% aux élections.
Effectivement. Mais alors, il y a eu un moment, 2022, les élections législatives, où Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour expliquer ce qu'était la NUPES, et là, il avait des accents, vous allez voir, on n'avait pas l'impression que c'était assis sur une si petite base électorale que ça, écoutez-le.
Nous sommes dans une posture historique, à nouveau, on nous a souvent comparé au Front Populaire, nous sommes dans une position différente, en ce sens que le Front Populaire n'avait ni programme partagé, ni programme commun. Chacun allait avec son programme. En 1997, la dissolution étant intervenue de manière inopinée, les discussions qui avaient lieu dans le cadre de la gauche plurielle avaient été interrompues. Dans ces conditions, nous sommes en meilleure posture, puisque c'est un programme qui contient 650 mesures. Et en même temps, nous savions très bien que nous ne pouvions pas, dans le délai qui était le nôtre, tout d'un coup, s'accorder sur tout, en tout point. Ce n'était pas possible. Donc nous sommes partis avec une ambition très forte, faire mieux que quelques mesures qui auraient réduit notre union à un caractère de pur cartel électoral, parce que nous savions que c'était impossible.
Voilà, donc Jean-Luc Mélenchon, en 2022, finalement, on est en meilleure position qu'en 1936 ou même en 1997, au moment de la victoire de la gauche de Lionel Jospin. C'était il y a 3 ans. Ce matin, donc, les socialistes ne sont plus nos alliés, dit-il. Adrien Broche, finalement, cette histoire de l'union des gauches, est-ce que c'est si nécessaire? Si on regarde 1936, les gauches sont divisées. 1981, les gauches sont divisées. Au premier tour, Georges Marchais est candidat à la présidence de la République. 2012, la dernière fois que la gauche remporte une élection présidentielle, les gauches sont divisées aussi. Il y avait une candidature Mélenchon, une candidature Hollande et une candidature socialiste. Finalement, est-ce que il faut mieux pas que les gauches soient fortes et divisées plutôt que unies et faibles?
Oui. Non, mais puis vous avez raison de rappeler qu'il y a quand même un candidat aujourd'hui à gauche qui a réalisé un score consistant à l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a malgré tout réuni 21,95% des voix au premier tour, là où la candidate socialiste, quoi qu'on en pense, a fait 1,7% des voix. Donc il y a un rapport de force qui aujourd'hui est déséquilibré à gauche, avec un pôle effectivement un peu aspirationnel du point de vue de l'électorat de gauche qui s'est plutôt porté sur la candidature la plus radicale.
Et peut-être pour... il y avait un aspect stratégique pour pouvoir éliminer Marine Le Pen au premier tour, c'est-à-dire peut-être que l'électeur de gauche, pour une fois, pouvait éliminer Marine Le Pen votant à gauche plutôt que en votant à droite, comme il le fait depuis 2002. Donc est-ce que ce rapport de force est vous paraît réel, en fait, représenter une réalité politique?
En tout cas, c'est un état de fait. On peut toujours gloser sur le vote utile, mais je pense qu'il représente quand même quelque chose, effectivement. Et puis, moi, je serais aussi moins optimiste sur les élections européennes, enfin, moins optimiste du point de vue du rééquilibrage des forces, puisque, en gros, du point de vue des scores qui ont été faits, Raphaël Glucksmann est plutôt allé chercher, effectivement, sur l'électorat vert, qui s'est un petit peu rééquilibré. En gros, en 2019, on était à 13-14 côté vert et 6 côté PS. Cette fois, on est à 13-14 côté PS et plutôt 6-7 côté vert, mais c'est plutôt sur un rééquilibrage interne à cette gauche-là, cette gauche non-LFI, je ne sais pas comment on peut l'appeler de manière autre, mais qui s'est fait plutôt que sur un électorat de gauche plutôt social-démocrate ou raisonnable qui se serait réactivé. Sur cet enjeu des gauches dites irréconciliables, il y a plusieurs éléments. On insiste souvent sur le caractère irréconciliable, en essayant d'évaluer la nature et le degré des désaccords qu'il y a. Alors effectivement, on peut regarder un désaccord sur un budget, c'est pas tout à fait un désaccord sur est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance ou terroriste. Donc il y a des clivages qui sont plus ou moins gros et des désaccords qui sont plus ou moins gros. On dit parfois qu'il y a deux gauches irréconciliables, mais moi je suis très frappé aussi du fait que c'est une opposition un petit peu schématique. En réalité, si vous prenez chaque éléments de clivage, le rapport au travail, à l'Europe, le rapport à la République, au social, etc. Les effectifs ne sont pas systématiquement les mêmes. Donc on a les mêmes gauches qui sont irréconciliables. C'est-à-dire que je donnerais raison là pour le coup à Manuel Valls qui en 2016 parlait de position irréconciliable. Alors après, ça s'est effectivement plutôt traduit sous les deux gauches irréconciliables et lui-même a pris le soin de ne pas corriger cela. Mais ça c'est quand même comme ça. C'est quand même comme ça que ça a été évoqué dès le début.
Mais pourquoi ça apparaît plus dramatique et plus impossible à résoudre que quand les gauches étaient irréconciliables pour des raisons, comme Marion Fontaine nous l'a rappelé, autrement plus clivantes il y a 10, 20, 30 ans. Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est l'écosystème médiatique fait de réseaux sociaux polarisateurs et de chaînes info bolorisées, polarisatrices aussi? Est-ce que c'est ça qui empêche un débat serein et qui rend et qui hystérise tous les débats, même au sein de la gauche?
Oui, il y a sûrement plusieurs éléments de réponse, je vous le laisserai compléter, mais je pense qu'il y a eu honnêtement récemment des points de divergence très profonds à gauche. Je prends effectivement la question typiquement ukrainienne et la question du Hamas le 7 octobre et la réaction différenciée des gauches à ces deux événements-là. Ce qui a donné et ce qui donne actuellement, je trouve, une résurgence d'un clivage, d'une espèce de summa divisio sur la gauche anti-totalitaire contre la gauche qui est pas forcément totalitaire, mais en tout cas qui est moins viscéralement anti-totalitaire.
Donc avec un certain rapport, peut-être libéral politiquement.
Pas libéral politiquement, avec un rapport un petit peu moins consistant et moins viscéral générale aux droits humains et à la protection des droits humains, etc. Ce que Raphaël Glucksmann a essayé de porter pendant la campagne des européennes. Donc ces éléments-là, je crois que c'est des positions qui, quand elles sont divergentes sur le rapport à la violence pure qui a pu se déchaîner le 7 octobre, ou alors au soutien d'un peuple opprimé qui était dominé à ce moment-là et qui l'est toujours, le peuple ukrainien, c'est très difficile d'aller par-delà ces divergences. Alors,
on
après,
peut rajouter le peuple syrien.
Le peuple syrien, 2000, exactement.
En 2015, Jean-Luc Mélenchon avait dit que la Russie avait la solution.
Tout à fait. Et un dernier mot là-dessus, pour qu'on en termine, mais cette espèce de poussée réactionnaire mondiale, la gauche n'y est pas forcément étrangère. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution récente de la France insoumise, il y a un certain nombre d'affects très réactionnaires qui se développent, je trouve, au sein du corpus et des voix des insoumis, et notamment de Jean-Luc Mélenchon. Je pense effectivement au rapport à la Syrie de Bachar al-Assad, de Vladimir Poutine et à ces impérialismes-là. Je pense à la question de l'antisémitisme, où il a mobilisé effectivement des rhétoriques qui ont même davantage de rapport avec la tradition antisémite à droite qu'avec celle de la gauche, hein, le conflit de loyauté qui l'opposait à Jérôme Guège, etc. L'offense aux croyants, le jour de la cérémonie, le lendemain des Jeux Olympiques, où il y a eu cette réaction « Pourquoi offenser les croyants ?»
Alors les insoumis vont vous répondre qu'il y a aussi au centre-gauche des dérives autoritaires, Manuel Valls, des propositions faites sur l'immigration qui...
C'est pour ça que plusieurs pôles de la gauche sont aujourd'hui affectés par ces poussées réactionnaires. Et je laisse mes...
Oui, Michel Vivorca...
Moi, je n'ai rien à objecter à tout ce qui vient d'être dit, mais je voudrais ajouter quelque chose qui complète le paysage, qui est que le problème, c'est l'état de la société elle-même. C'est l'état de notre société. C'est-à-dire, par exemple, si...
Mais la gauche doit être réparatrice, justement.
Ah, exactement. Mais, je veux dire, quand la société est malade, ou en crise, ou faible, incapable de construire, justement, les contestations dont on a parlé à propos du 19e siècle ou de la 3e République, quand la gauche, elle repose sur... Bon, sur un social et, et des dimensions culturelles qui ne lui permettent pas vraiment d'être forte et claire, eh bien après on assiste à ces jeux. Je prends l'exemple de Mélenchon et de la France insoumise par rapport à la question israélo-palestinienne. Le problème pour eux n'est pas tellement ce qui se passe là-bas. Le problème c'est que je veux conquérir l'électorat issu de l'immigration arabo-musulmane, pour simplifier. C'est un problème de stratégie électorale. C'est-à-dire, j'ai en tête qu'il existe une population qui peut-être va voter pour moi. Et donc, mais quand on voit dans notre pays qui ne se constitue pas de mouvements sociaux importants, qui ne se constitue pas de mouvements culturels, les affaires wokistes, on ne va pas en reparler maintenant, mais elles traduisent bien aussi, justement, cette déliquescence, cette déstructuration de la vie sociale. Et donc,
elles peuvent traduire une réflexion intéressante, anthropologique et assez révolutionnaire sur les rapports hommes-femmes qu'il faut bien aborder.
Ah, mais attendez, alors moi je suis de ce côté. Moi, nous trois ici, je pense qu'on est comme ça. On adore réfléchir à ces questions-là. Mais je pense que tant que le mouvement de la société ne portera pas des dynamiques qui permettront à la gauche de se situer à un niveau de sens et de projet bien plus élevé que ce qu'on entend, ça n'ira pas.
Bon, alors je ne sais pas si on a répondu à la question du début de l'émission et si finalement il va peut-être falloir passer par la case autoritarisme. On espère que non, mais en tout cas cette émission est terminée. Elle a été préparée avec Christophe Imbert, archive sonore, Franck Olivard, attaché de production. Cette semaine, Emma Bouvier à la réalisation, Maria Pasquier à la technique, Benjamin Wagon, programmation musicale, c'était Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de Politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Et si cette émission vous a intéressé, cette émission sur la gauche vous a intéressé, eh bien vous trouverez aussi dans la collection d'Enquête de Politique une série sur l'anarchisme, une autre sur le trotskisme, une sur le maoïsme, un numéro sur la social-démocratie, le mendésisme, le rocardisme, le chevènementisme, l'union de la gauche, plusieurs sur l'écologie. Allez voir sur la page de l'émission, il y a de quoi faire. Je vous retrouve dimanche prochain. On parlera de la notion d'état de droit, une notion surutilisée et souvent mal utilisée dans le débat politique. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, eh bien, c'est la politique qui s'intéressera à vous.